voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Face aux réalités humaines, économiques et écologiques actuelles, de plus en plus de citoyens s'interrogent sur notre devenir et sur le rôle que chacun peut jouer. Il ne s'agit plus d'être simplement spectateur d'un système qui nous démange, mais de devenir l'un des acteurs du changement. Après une carrière internationale de consultante et de directeur de projet, Mariette a créé sa société. Autodidacte et attachée à des valeurs de développement durable, Mariette a créé des articles pour bébés et enfants et n'utilise que des tissus certifiés et issus de l'agriculture biologique. La voix du Kaizen lui donne la parole.
Bonjour.
Mariette, j'ai vu sur une étiquette « créateur engagé ». Qu'est-ce que c'est qu'un créateur engagé ?
Alors, un créateur engagé, pour moi, c'est quelqu'un qui crée pour proposer des choses qui permettent de changer le monde en général, ou chez moi, c'est la façon de consommer le vêtement pour enfants.
Intéressant. Donc on va en parler de ce que tu fais. Donc je t'ai croisé sur le stand de Qui dit cadeau. Donc effectivement pas mal de vêtements pour les enfants. Créateur engagé, changer le monde. Donc c'est intéressant. Pourquoi changer le monde ? Quelle est ta vision du monde aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu perçois ? Qu'est-ce que tu aimerais changer ? Mais avant de répondre à cette question, parle-moi un petit peu de toi et de ton parcours.
Alors moi je suis hollandaise d'origine. Ça fait plus de 15 ans que je suis en France. Donc j'ai un parcours international, j'ai beaucoup travaillé dans des pays différents, travaillé pour des grosses structures, donc j'étais vraiment dans le système des grosses boîtes où on gagne bien sa vie, où on travaille beaucoup. Et quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu une prise de conscience en me disant, déjà au niveau disponibilité, c'est la vie, ça se résume pas à juste aller travailler et ramener de l'argent, et il faut être là pour ses enfants, pour son entourage. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait que quand j'habillais mes enfants, je me disais, mais ça grandit tellement vite, c'est débile, j'achète plein de petits trucs, ça n'a pas de sens. Et moi, je voulais donc créer quelque chose, créer une marque, créer une entreprise qui contribue à changer un peu les mentalités des gens. Voilà.
Le mot prise de conscience, c'est quelque chose que j'entends souvent, mais qu'est-ce qui va faire qu'on prend conscience et de quoi as-tu pris conscience ? Qu'est-ce que tu as voulu fondamentalement changer dans ton quotidien ?
Moi, je pense que il faut du recul pour tout d'un coup voir les choses différemment. Je pense que dans mon cas, c'était grossesse, tu sors d'un chemin où tu as l'habitude, sur lequel tu as l'habitude de marcher, et tout d'un coup tu regardes et tu te dis qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je ne ferais pas autrement. Pour moi c'est ça la prise de conscience, c'est ça, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire et est-ce que c'est pas complètement en rapport avec ce que j'ai envie de faire ou d'être. Voilà, pour moi c'était ça. Et puis c'est quand tu réfléchis, quand tu commences à créer des trucs, tu réfléchis, tu dis mais la mode, c'est la consommation poussée à fond, il faut acheter. Sûr, il y a des gens maintenant, on partage, donc on donne les vêtements à d'autres. Mais c'est le mode en général, le milieu de la mode, c'est on fait fabriquer à très bas coût et on consomme, on pousse à la consommation. Il faut tout le temps changer, c'est pas grave quand ça dure pas, voilà. Et moi, je voulais faire autre chose.
Donc, c'est à ce système de consommation de masse auquel tu t'es opposé, et puis aussi au bas coût de production.
C'est ça, et puis je pense, là, je suis complètement à contre-courant de ce que font les marques de mode, parce que tout le monde dit, allez, achetez, et moi, je dis, non, achetez peu, mais mieux, mais peu. Donc, c'est dans une logique purement économique, on va me dire, mais c'est pas comme ça que tu vas gagner de l'argent. Et en plus, je fabrique en France, donc déjà là aussi, quand on parle à la Fédération française de l'habillement, ils me disent, mais c'est bien, mais vous n'allez pas continuer à fabriquer en France, c'est pas possible. Vous allez vite ailleurs, et je trouve ça m'embête. Je dis non, il faut juste faire autrement, et si on fait autrement, on peut fabriquer en France, on peut proposer quelque chose qui dure et on peut quand même en vivre. On peut créer des emplois, on peut se payer, pas des fortunes, mais on peut faire apporter quelque chose à la société en fabriquant en France, en proposer quelque chose qui ne va pas dans le sens de la consommation de masse. Voilà.
Explique-moi pourquoi, pour toi, c'est important de produire et de fabriquer en France.
Je vois autour de moi plein de créateurs, plein d'artisans qui créent, qui ont du mal. Et je trouve qu'il y a beaucoup de compétences et beaucoup de gens qui aimeraient bien vivre de leur passion, parce qu'il y a plein de gens qui adorent confectionner, faire de la couture. Donc pourquoi aller ailleurs si on peut le faire en France? Et en plus, pour moi, c'est important parce que comme je fais la petite série et je fais beaucoup de personnalisé, donc j'aime bien proposer aux clients choisir une couleur, faire du quasi sur mesure. Il faut que tu sois que tu fabriques pas loin, parce qu'il faut avoir la flexibilité de pouvoir répondre à la demande des clients. Et puis il y a une question de qualité aussi, il y a une question de facilité, parce qu'on est plus près, donc on contrôle mieux, on voit mieux ce qui se passe. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce système de fabrication par des enfants en Bangladesh et compagnie. Voilà.
Donc c'est ça que tu réponds à ceux qui te disent, mais pourquoi tu penses pas réduire tes coûts de production en délocalisant?
C'est toujours la question que je me pose, parce que quand je suis en train de faire le fameux business plan en disant comment est-ce que je vais gagner de l'argent, à un moment donné, peut-être tu seras obligé de délocaliser peut-être une partie de la confection, mais je veux toujours proposer le choix au client. Donc j'aimerais, si vraiment je suis obligé de faire ça pour une partie de la gamme éventuellement, je veux toujours proposer le choix au client, soit de vous payer un peu plus et vous avez la fabrication française, soit de vous en foutez. Mais dans ce cas-là, ça ne sera pas produit non plus n'importe où, ça sera toujours dans une démarche éthique.
Alors, ce que je trouve vraiment super intéressant sur Qui dit cadeau, c'est que tu t'opposes complètement à cette démarche de consumérisme, hein, où aujourd'hui on nous pousse à être dans une surconsommation. Toi, tu crées des vêtements qui sont évolutifs, hein, et qui s'adaptent à l'âge des enfants. Donc, c'est complètement opposé à la logique de profit, c'est opposé aussi à l'obsolescence programmée, hein, dont on parle pour tout ce qui est matériel informatique ou tout ce qui est matériel technique. Donc, parle-moi un peu de ce que tu proposes.
Alors moi je propose un vêtement qui peut accompagner ou qui peut habiller l'enfant de ses 6 mois jusqu'à ses 2 ans. Donc c'est le même vêtement que j'agrandis parce que je travaille beaucoup avec des systèmes de bretelles, de boutons pression, etc. Donc il suffit d'acheter un vêtement et j'habille mon enfant de 6 mois jusqu'à 2 ans. Fini, casse-tête des tailles, qu'est-ce que je prends comme taille? 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois, c'est pas la peine. La différence est petite finalement, quand on regarde la différence en taille, c'est pas énorme. Quand on confectionne, on voit bien, c'est pas énorme. Donc c'est faisable de proposer un vêtement qui grandit. Et en plus, l'argument qu'on me fait souvent, c'est ouais, mais ça sera le même vêtement, on s'en lasse. Chez nous, on retourne le vêtement, donc on a deux en un, c'est réversible. Et en plus, on a des petits boutons pression partout, qui permet d'ajouter un élément décoratif. Ça peut être des petites poches, ça peut être des fleurs, des papillons, des carrés. Voilà. Donc si j'en ai marre de mon vêtement, j'ajoute un petit truc et ça fait que j'en ai un autre. Voilà. C'est un peu ça l'idée.
Donc il va te suivre à travers les âges. En plus, tu peux le rendre évolutif. Mais cette idée géniale, j'ai envie de dire, c'est toi qui l'as eue? Comment est-ce qu'elle est née?
Ah bah oui, c'est moi qui l'ai eue. C'est venu parce que j'étais en train de... Ça fait 4 ans que... Il y a 4 ans que j'ai créé à la boîte. Donc, au début, j'étais sur le personnalisé sur mesure, beaucoup avec du prénom, mais j'ai vu que c'était pas dans cette direction qu'il fallait que j'aille, parce que c'est quand même difficile de faire une entreprise rentable si on fait que du sur mesure. Et donc, je voulais faire une différence par rapport à des marques qui sont sur le marché. Et c'est en fait une photo qu'un client m'a envoyé d'une salopette qu'elle avait achetée pour son enfant quand il avait une première taille, c'était de 4-6 mois. Et la gamine, elle avait déjà deux ans passés et mettait toujours la même salopette. Et donc déjà, à la base, les vêtements étaient évolutifs. C'était déjà, ça permettait déjà de grandir. Et donc je me dis, bah, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a personne qui le fait, je le fais. Voilà. Et donc après, je m'amuse maintenant à aller élaborer, à aller plus loin dans le concept, parce que après, s'il y a des contraintes, quand on dit on veut que ça évolue, bah on peut pas tout faire, parce que pas tout peut grandir, mais c'est ça qui est super intéressant, parce que maintenant il faut que je trouve des idées pour permettre à tous les vêtements de grandir. Donc c'est ça, c'est génial ça.
Alors quand tu viens avec ton idée révolutionnaire, comment est-ce qu'elle est perçue par la profession, par tes collègues, par ton environnement, par ton entourage ?
Je pense que c'est, il y a de la jalousie par certains. Je pense qu'il y en a qui se disent, zut, j'aurais dû y penser. Il y a aussi qui disent, non, c'est pas bien parce que, comme on disait avant, ça permet pas de pousser à la consommation, donc c'est pas bien parce que je gagnerai pas des fortunes. Et il y en a qui disent que c'est génial. Là, j'ai pas mal de presse en ce moment, des gens qui disent finalement le concept c'est simple mais c'est génial, il fallait y penser. Donc c'est vraiment tout d'un coup ça, j'ai l'impression que tout d'un coup les gens se rendent compte que c'est génial comme concept. Donc voilà.
Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer en mettant en place ton business ?
C'est sortir de l'ombre. C'est surtout ça, c'est quand on est petit, quand on n'a pas des gros moyens, c'est la notoriété qui fait défaut. Je vais sur des salons, j'ai un site internet, mais avoir un site internet, ça suffit pas. Les gens passent pas sur ton site si t'es pas connu. Donc il faut absolument avoir une notoriété. Et dans le domaine de la mode pour enfants, on voit très bien que tous ceux qui mettent des grosses annonces dans les journaux pour la mode enfantine, c'est ceux qui sont retenus dans les reportages. C'est pas les vêtements originaux qui sont retenus, parce que c'est un système où il faut payer ses annonces pour qu'on parle de vous. Et voilà. Donc ça, j'ai pas envie de rentrer dans ce système-là. Et donc c'est difficile. C'est plus difficile parce que comme je fais pas des marges énormes non plus, je peux pas aller dans n'importe quelle boutique. Donc c'est pas le chemin le plus facile.
Mais alors comment tu fais pour te faire connaître et puis développer ton activité ? Qui dit cadeau ?
Passer à la radio, j'espère bientôt passer à la télé, j'ai pas mal de presse, voilà. Normalement, je passerai dans Télématin, C'est ce genre de choses qui font que tout d'un coup les gens vont découvrir la marque, voilà.
Alors parle-moi de qui dit cadeau hier, qui dit cadeau aujourd'hui et qui dit cadeau dans 5 ans ?
Alors, qui dit cadeau hier, c'était Mariette Payeur toute seule, pas toute seule, mais quand même relativement toute seule dans son coin, en train de se battre avec ses bonnes idées. Aujourd'hui, c'est plein de gens qui parlent de moi avec des possibilités de m'associer avec quelqu'un. Et dans 5 ans, j'aimerais bien avoir donné du travail à 5 personnes, minimum. Avoir une entreprise qui avec 5 salariés.
Et donc ça, c'est possible. Aujourd'hui, dans le modèle économique, pas évident. Est-ce que tu penses que tu peux réussir en étant une créatrice engagée, arriver à développer quelque chose de différent ? Est-ce que c'est compliqué ou pas ? Parce qu'on est quand même dans cette logique de profit, de développement. Est-ce qu'on peut y arriver quand on a des idées vraiment innovantes ?
Oui, je pense qu'on peut y arriver. Il faut avoir des fonds. Donc il faut avoir quelqu'un qui croit, avec des moyens financiers, qui croit en l'aventure. Et quand on a un peu d'argent, je dis pas des budgets énormes pour faire des pages de pub et faire de la pub à la télé, mais un petit peu de créer un petit peu de notoriété. Après, on s'adresse quand même à une clientèle qui est aussi engagée et qui a envie de partager les bonnes trouvailles, donc qui va forcément parler de la marque. Je vois déjà les clients sont fidèles. Il y en a beaucoup qui reviennent, qui sont super enthousiastes par les produits. Donc petit à petit, ça va se permettre à se faire connaître mieux. Et après, c'est possible, oui, c'est possible de faire une entreprise rentable et embaucher du monde, même dans un modèle comme ça. On n'est pas obligé de pousser à la consommation et de fabriquer ailleurs pour être rentable. Il suffit d'être un peu vouloir gagner un peu moins sur ses produits et on peut y arriver.
Mariette, j'ai envie de rêver avec toi. Au début de cette interview, tu me disais changer le monde. Tu utilisais cette expression, changer le monde. Comment est-ce que tu aimerais, ou quel changement tu aimerais voir dans le monde ? Qu'est-ce que tu aimerais changer si tu pouvais ?
Ah, j'aimerais. Qu'est-ce que j'aimerais changer? Je pense que le monde en soi est très beau. Je pense que si tout le monde commence à s'arrêter et regarder rien que la nature, les choses qui se passent, la beauté des choses, je pense que tout le monde se portera beaucoup mieux si on arrête de penser à l'argent, penser à tout ce qui va mal. Ça va déjà mieux, je pense.
Mais par quoi commencer le changement? Comment est-ce que tu amorcerais qu'as-tu envie de changer? Donc le monde est beau, ok, je partage avec toi cet avis, mais comment on pourrait le rendre meilleur?
C'est difficile à répondre comme ça. Quoi faire concrètement? Je pense que c'est des petites choses. Moi, avec ma proposition, moi je ne suis pas la seule. Il y a plein de gens qui proposent des idées différentes. Il faut écouter ces gens-là. Il faut prendre du recul, il faut cette prise de conscience où on se dit bah, le système actuel, c'est pas ce qu'il faut. Donc voilà, regardons le côté positif, voir ce qui est possible, arrêter de suivre tout bêtement comme des moutons ce que fait tout le monde. Et c'est la prise de conscience, réfléchir à ce qu'on fait, pas bêtement suivre. Voilà.
Et donc tu es positive, c'est possible d'être cohérent dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle.
Ah ouais. Ah oui, je pense. Moi, je pourrais pas faire. Je vois pas vraiment une différence entre ma vie personnelle ou comme je suis dans ma vie personnelle et comme je suis dans la vie professionnelle. Je suis la même personne, je défends les mêmes valeurs et c'est comme ça, je pense, qu'on crée une entreprise engagée parce qu'on est dedans avec ses valeurs et ses valeurs sont forcément les mêmes qu'on a quand on est chez soi.
Quelles sont les questions que tu peux te... Donc toujours dans cette recherche de cohérence hein, entre ce qu'on est et ce qu'on fait, est-ce que tu te retrouves quelquefois bloqué ou... bloqué ou face à quelque chose que tu aimerais pouvoir changer dans cette cohérence professionnelle?
Forcément, tu es obligé de faire des concessions. Par moment, il faut rêver, mais il faut aussi être réaliste. Donc à un moment donné, il faut faire des concessions, il faut... Il y a des fois où j'aimerais faire autrement, mais je ne peux pas parce que pour des raisons peut-être financières, je suis obligée de payer moins que j'aurais voulu. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas possible. Mais après, ça deviendra peut-être possible. Donc, il faut faire des concessions. Mais il faut rester fidèle à ses valeurs de base. Et après, on joue un peu autour. Mais quand le fondement reste là, les valeurs de base sont respectées, c'est... Voilà, c'est ça qui est le plus important.
Mariette, qui dit cadeau, ce sont des vêtements pour les enfants. Qui dit enfant me fait penser au monde du rêve et de l'imaginaire. J'aimerais que tu me racontes une histoire pour terminer cette interview. Une histoire que tu aimes bien, que tu as peut-être entendue étant enfant ou que toi tu racontes à tes enfants. En tout cas, quelque chose que tu as envie de partager dans le micro.
Alors c'est marrant parce que à un moment donné, dans la création de Qui dit cadeau, j'étais partie sur Qui dit cadeau raconte. C'était des vêtements créés autour des petites histoires. Et l'histoire commençait avec le mammouth en croûte, qui est un de mes doudous préférés. Le mammouth en croûte, c'est mon fils qui avait fait une recette pour faire un mammouth en croûte. Il fallait un mammouth et une tonne de croûte. Et ça donnait un mammouth en croûte. Et donc après, j'avais un peu inventé une histoire avec un mammouth en croûte, avec un vieux chat dans une vieille maison qui jouait toujours aux cartes avec une souris. Et il y avait le mammouth qui habitait dans la forêt. Alors, c'est une longue histoire. Je peux parler pendant des heures pour raconter l'histoire. Mais là, le chat, je l'ai aussi en doudou. Il habite dans la maison, il joue aux cartes avec la vieille souris. Le chat, c'est l'aristocratie... perdu là, il a tout perdu là, juste encore sa maison. Et un jour il va au grenier, il cherche des affaires, il trouve la carte avec l'image du mammouth en croûte. Donc après, avec la souris, ils partent à la recherche du mammouth en croûte. Voilà.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.